Nous sommes à nouveau en direct pour la deuxième partie de cette émission. Alors, moi je trouve que Santé à vendre, c'est un nom tout à fait adapté parce que on est vraiment sur des questions importantes de santé. Mais c'est vrai qu'on prend la santé sous un angle tout à fait particulier. Mais j'étais tout à fait d'accord avec vous, Alain Boutier, avec l'association SOS Enfants du Divorce, sur cette idée que on est véritablement sur une prévention de graves problèmes de santé et mentale et physique. Ça m'a beaucoup intéressé d'ailleurs que vous le disiez. Vous êtes toujours avec nous ?
Oui, bien sûr, oui, je vous entends un petit peu mieux que tout à l'heure.
Je crois qu'il y avait aussi Benoît, parce qu'on est trois sur le plateau, qui tout à l'heure avait une réaction. Alors ça m'embêtait de pas lui laisser la parole. Peut-être qu'il a des questions à vous poser.
Ben, je veux bien, oui.
Oui, bonsoir.
Ce que je disais, si vous voulez, le traitement judiciaire de ce qui s'appelle les conflits familiaux engendre des frustrations absolument inouïes. Et ces degrés de frustration touchent pratiquement toutes les échelles de besoins de l'individu, de la personne humaine, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'enfant. Ne serait-ce que les attentes qui découlent, si vous voulez, des durées de procédure et des attendus et des délibérés, etc. Même 15 jours d'attente pour une décision de justice, ça peut foutre quelqu'un en l'air. Et ça, on le dit depuis 30 ans. Alors donc, il est presque hors de question de continuer un traitement aussi désorganisateur de l'humain.
Benoît.
Voilà. Oui, bonsoir Alain.
Bonsoir.
Je suis très intéressé par ce que vous dites, d'autant plus que j'ai eu un petit parcours de psychothérapie.
Pardon ?
J'ai eu un petit parcours de psychothérapeute après mes études de psychologie.
Oui.
Et donc, je voulais juste vous dire que en quoi je suis un peu hostile, mais par principe, à l'enregistrement, que ce soit vidéo ou audio.
Oui.
Je suis opposé à ce principe parce que chacun, dans un événement particulier ou dans une rencontre, garde une mémoire tout à fait individualisée des événements.
Oui.
Et le fait de revoir une diffusion ou de réentendre des messages modifie cette perception. Voilà. C'est-à-dire que quand il y a restitution a posteriori d'une réunion, les gens peuvent se sentir violentés dans leur propre mémoire.
C'est pas exactement. Ce que
c'est... Voilà. Et c'est pour
Mais
ça
il y a
que...
un point aussi important. Vous savez, les personnes sont dans une très souvent dans une relation de culpabilisation.
Exactement.
Et si on ressort cet incident de culpabilisation qui peut se trouver dans les discours, soit en oratoire, soit même en infraverbal, par les attitudes et les mimiques,
bien sûr,
on peut faire renaître une étrange douleur, après coup.
Absolument. Et je crois que chacun a le droit, en être singulier, à l'oubli. C'est-à-dire, sa mémoire ne doit pas être enregistrée, stockée et formatée par des schémas qui sont, à mon avis, pas souvent utiles, voilà, à la restitution. Le dialogue, c'est quelque chose de présent. Et on a le droit aussi à oublier le dialogue. Et ça, c'est chacun qui le voit pour soi.
Oui, c'est-à-dire à rendre le dialogue fructueux.
Voilà.
On le dit comme ça. De manière à sortir des ornières qui sont assez souvent la rancune. On n'aura pas parlé de la haine, mais bon, il arrive qu'il y ait de la haine, sous-jacente ou apparente. Mais la rancune, les rancœurs, les choses que les personnes n'ont pas réussi à se dire en un temps voulu, etc., qui vont sortir en médiation, bon, on essaye de faire de ces échanges des échanges fructueux. C'est-à-dire que les choses sont dites, elles sont posées, elles sont claires, on ferme les portes ensuite. On a d'ailleurs une petite image. Le processus de médiation, qui n'est pas un processus standard, parce qu'il est au cas par cas, si vous voulez, le médiateur est normalement responsable du processus qu'il engage avec les parents, on va pas dire les parties.
Bien sûr.
Et ce processus peut changer en cours de route. Il s'adapte au cas par cas. Et on a une image. Le processus, c'est comme un couloir qu'on traverse. On ouvre des portes, on visite ce qu'il y a à l'intérieur des pièces, à droite, à gauche, et on referme les portes, et on ne revient pas en arrière.
Bien sûr, bien sûr. Et je crois aussi que l'enrichissement individuel de chaque séquence de dialogue fait que l'être n'est plus le même. À la réunion suivante, il s'est passé autre chose, donc la rencontre est encore différente. C'est-à-dire, il a marché dans le couloir et il a vu d'autres portes. Donc, il a évolué. Et pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant, il soit aussi partie prenante dans cette évolution. C'est-à-dire que vous, en tant que médiateur, comment vous dialoguez avec l'enfant sans dévoiler les secrets des parents?
La question de la place de l'enfant se pose. Je ne veux pas répondre trop vite à la question.
Non, elle est complexe.
Tous les médiateurs ne sont pas d'accord entre eux là-dessus. Bon, nous, on a quand même, je vous dis bien, 30 ans d'exercice associatif et donc 20 ans dans notre centre parents-enfants médiation.
Oui.
Et l'enfant a toujours eu sa place. Mais quelle place? La place première que l'on donne à l'enfant, c'est être dans la communication avec ses parents.
Mm-hmm.
Donc, pour nous, ce sont les parents qui sont les premiers porteurs de sens dans la communication qu'ils ont avec lui et entre eux. Donc, le médiateur, enfin, je veux dire donc, c'est pas une conclusion, le médiateur n'a pas un rôle d'immixtion dans la parentalité.
Bien
et
sûr.
Peut-être que des médiateurs se posent la question. Est-ce qu'on doit s'immiscer dans la parentalité et parler à la place d'eux?
Oui.
Moi, je vais dire, avec la pratique que j'ai, je dirais certainement pas. Il appartient aux parents d'apprendre, de savoir comment converser avec leur enfant, de s'échanger du sens avec l'enfant. Et c'est peut-être ce travail qui se fait le mieux avec les parents qui viennent à tour de rôle ou qui viennent ensemble. Comment parler avec leur enfant? Comment désamorcer les craintes? Comment désamorcer les peurs? Comment redonner confiance? Comment revaloriser? Comment dire à l'enfant qu'on l'aime toujours? Comment peut-être même se focaliser un petit peu sur l'enfant, parce que c'est la personnalité la plus fragile dans un couple qui se sépare. Et les parents ont l'impression que leur enfant est solide. On entend souvent dire « les enfants sont solides ». Ah, croyez-moi, ça fait longtemps que notre association SOS Enfants du Divorce souffre d'entendre dire que les enfants sont solides. C'est pas vrai. Les adultes sont beaucoup plus accomplis pour supporter des ruptures, pour supporter des chaînes de modifications dans leur existence. Un enfant qui change de classe, il est déjà tout bousculé, il faut le réadapter. Un enfant qui change de domicile, mais aussi ça change tous ses rêves, ça peut mettre des cauchemars, et puis vous avez des enfants qui somatisent. Il ne faut pas dire que les enfants sont solides, c'est pas vrai.
Bien sûr.
Donc, c'est aux parents d'être porteurs de l'espérance de santé de leur enfant. Et donc, nous centrons tous nos efforts sur le couple parental. Comment peut-il se constituer pour l'enfant, pour son bien-être, et on va le dire aussi au regard de l'institution, dans son intérêt.
Bien sûr. Alors, tout à l'heure, vous avez dit un petit mot que j'ai relevé au passage. Vous avez dit que c'était une association idéologique.
SOS Enfants du Divorce, oui. C'est un mouvement idéologique.
Un mouvement idéologique. Alors, comment...
Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes à la naissance d'une phrase école,
oui,
qui est le maintien du couple parental pour l'enfant au-delà même de la rupture du couple conjugal, qui est une phrase entière qui se donne maintenant dans les formations à tous les niveaux universitaires, dans les instituts de médiation, etc.
Mm-hmm.
C'est le maintien du couple parental pour l'enfant au-delà même de la rupture du couple conjugal, qui est une phrase que notre association SOS Enfants du Divorce avait mis en ligne et en route, je crois, en 84 ou 85, après ces 2, 3, 4 premières années de démarrage, et à l'appui d'un dossier qui questionnait l'enfant a-t-il droit à ses deux parents. C'était juste avant la loi Malluret.
Oui.
Mais c'est une phrase qui s'est institutionnalisée. On parlera d'une phrase école.
Bien sûr.
On parlera même d'un postulat.
Elle est tout à fait intéressante, mais est-ce que vous n'avez pas rencontré des enfants qui sont capables de vous dire qu'ils ont plusieurs parents? C'est-à-dire ils ont des parents, donc le couple qui les a hébergés quand ils étaient jeunes, qui les a fait naître et tout, et puis d'autres parents. Est-ce que ça vous est arrivé déjà? Parce que finalement, si c'est l'enfant qui compte en plus, peut-être que cette idéologie ne s'adapte pas à tous les enfants.
Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, le parental ne fait pas abstraction de la coparenté.
D'accord.
Pour nous, c'était la coparenté.
D'accord.
C'est-à-dire ce qui accompagne chacun des deux parents, en termes de coparents.
Mm-hmm.
Alors, il y a peut-être des glissements sémantiques. Nous, nous parlions du couple parental. C'est celui que se dessine l'enfant à partir de sa structuration.
Bien sûr.
Et la coparenté, c'est pas forcément les deux parents. Ça peut être les deux parents et les personnes qui s'adjoignent à chacun des deux parents. Donc il y a peut-être un glissement sémantique quand on entend parler du maintien de la coparenté. Ça voudrait dire qu'on maintient le parâtre entre guillemets et la marâtre ? Je ne sais pas. Pour nous, c'est le couple parental, c'est initial.
Oui, c'est l'enfant. C'est
un phénomène de coparenté. Ça peut être un phénomène de coparenté élargi.
Oui, oui.
Et il est vrai que des enfants nous ont dit, j'ai ma maman, j'ai mon papa, il y a l'ami ou le conjoint de ma maman, l'ami ou la conjointe de mon papa.
Oui, ce qui crée leur environnement sécurisant.
Oui, un environnement d'adultes,
voilà.
Qui s'entendent, qui se battent pas, qui se chipotent pas, qui se font pas la guerre.
Oui,
voilà.
Et Alain, je voulais, bon, on s'est rencontrés à Montpellier lors de la réunion pour Anna.
Oui.
Et son projet de coparentalité, voilà, tu peux nous en parler ?
Mais si vous voulez, je ne veux pas parler à la place de Anna. Mais d'emblée, nous avions pensé que l'énoncé manquait d'une certaine précision terminologique. Et en suivant cette marche, nous nous apercevons qu'il y a une évolution du discours et que des choses se disent de plus en plus clairement, qui nous rassure un petit peu. Tout au début, il me semble qu'il y avait quelques amalgames, qui naissent d'ailleurs très souvent ici, quand on entend des parents qui sont dans de très grandes souffrances, de très grandes pertes de relations avec leur enfant, avec des éléments rajoutés qui sont justement le maltraitement institutionnel dont vous avez parlé tout à l'heure, des enquêtes qui ont dit n'importe quoi, des points rencontres ou de médiatisation qui ont plus accentué la rupture qu'amélioré les choses, enfin, des pertes de communication. Donc, le début, si vous voulez, nous paraissait très très fort, mais alimenté par un discours qui n'était pas très précis. Vous savez, en médiation, on a une recherche terminologique, des analyses sémantiques, neurosémantique continuelle. On focalise véritablement sur la notion de science en matière de médiation. C'est devenu une discipline. Il y a des instituts de recherche. Nous-mêmes, nous sommes unités de recherche près des universités, notamment Paul Valéry. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi de la médiation. On ne peut pas dire imposer la médiation. On ne peut pas dire pratiquer la médiation obligatoire. Ça ne veut rien dire du tout, ça. Ça pourrait organiser d'autres souffrances. On ne peut pas dire ordonner la médiation non plus. Il y a des magistrats qui sont plus prudents. Ils évoquent, ils indiquent.
Oui, parce que c'est les parents.
Il y a le travail de l'avocature. Une certaine branche de l'avocature manifestement participe à l'évolution de la médiation familiale. Et cette branche de l'avocature est en train de mettre en place ce qu'on appelle la procédure participative. C'est d'un niveau qui n'est pas facile à expliquer comme ça, je ne vais pas le mettre au micro. Mais il y a des syndicats professionnels qui parlent de la procédure participative, qui peut être en lien avec la médiation. La question, c'est de savoir si la médiation familiale va être avant ou après la procédure participative. C'est un débat professionnel. Mais il y a aussi des avocats qui sont dans le scrupule du contradictoire, qui vantent les mérites de la décision du juge, et qui alimente le débat contradictoire avec les différences de rapport entre les personnes. Donc là, on ne peut pas être d'accord. Ces avocats-là, à notre avis, il faudrait qu'ils se sortent de ce qu'ils appellent la défense des droits de l'homme, parce qu'ils ne défendent pas les droits de l'homme.
Mais paraît-il que 40...
Donc, le contradictoire.
40% du chiffre d'affaires des avocats sont issus des conflits familiaux.
Mais vous savez bien qu'en 2007, tout notre mouvement de la médiation familiale et de soutien à la parentalité a provoqué la plus grosse grève des avocats qui ait jamais existé en France.
Mmh.
Il y avait des émissions sur toutes les ondes radio, France Inter, etc., dans lesquelles on entendait les avocats injurier les parents qui téléphonaient. Quand les gens disaient « Mais la procédure de divorce m'a trimballé pendant 5 ans et ça n'a rien donné », les avocats disaient « C'est parce que vous avez mal supporté votre divorce. »
La culpabilité.
C'est formidable. Alors bon, ils ont tout effacé, ils n'ont pas recommencé leur grève. À Agen, ils ont arrêté la grève. Mais souvenez-vous de Carpentras, hein, où des avocats manifestaient dans le tribunal. Souvenons-nous de Montpellier, où des avocats tambourinaient à la porte en disant « et nous, et nous, et nous ». Et puis maintenant, si vous voulez, il y a un projet de loi qui a été mis en place par Madame Alliot-Marie, hein, qui date de mars 2010, qui mettrait la médiation familiale à une bonne place. Comment réagissent le Conseil national du barreau? ils réagissent en mettant un bloquant. C'est-à-dire qu'ils iraient dire que le recours à la médiation familiale, c'est une impasse au droit, parce que ça empêcherait d'aller voir le juge. Alors qu'il y a même des magistrats qui disent, il vaut mieux aller en médiation familiale avant, en amont. Ça peut désamorcer une procédure.
Pour l'intérêt de l'enfant.
Dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr, toujours. On aura tous entré dans l'intérêt de l'enfant. Alors si des magistrats disent, il vaut mieux aller en médiation avant, d'autres vont dire, oui, mais il faut quand même qu'on contrôle un peu les choses, et la médiation peut être ordonnée par le magistrat ou non. Ça dépend du niveau du conflit. Si le juge est saisi avant la médiation ou après être passé en médiation, mais voilà certains avocats qui disent, ah non, 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 il faut d'abord aller voir le juge. Mais nous sommes tous, en tant que médiateurs, là pour dire, vous pouvez venir voir la médiation avant d'aller voir un avocat. Jocelyne Dahan, à la mairie de Paris, il y a déjà 20 ans, le disait sur les ondes. Venez voir un médiateur avant d'aller voir un avocat.
Il faut le répéter, et le répéter encore.
Il faut organiser, quelque part, le réflexe médiation, le réflexe médiateur. Mais là, il y a quelque chose d'important à dire. Tous les médiateurs ne sont pas des médiateurs.
Bien sûr.
Il y a des niveaux chez les médiateurs, des niveaux très différents les uns des autres. Ici, on est unité de recherche. Ce qui veut dire que les niveaux d'acquisition dans notre structure ne sont pas les plus mauvais, puisque nous sommes formateurs, maîtres de stage, au niveau du diplôme d'État. Maintenant, demain, il y aura probablement des médiateurs mieux que nous, plus forts que nous, qui auront des formations beaucoup plus accomplies, je n'en doute pas. Nous avons lancé la médiation, et nous ne sommes pas les génies de la médiation, hein, parce que la médiation n'est pas une panacée universelle, ce n'est pas non plus un coup de baguette magique, c'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Une médiation, ça ne se fait pas en 5 minutes. On a déjà une idée du processus moyen qui est recevoir les parents l'un, l'autre, séparément ou ensemble. Ça organise à peu près une vingtaine d'entretiens. La moyenne, c'est 12 à 15. Des entretiens qui sont de 2 à 3 heures avec les parents, la famille, qui peuvent impliquer l'enfant, on l'a dit tout à l'heure. Et ça ne s'arrête pas là non plus, puisque la médiation, elle est rejoignable à tout moment, quel que soit le petit détail à régler, la difficulté de communication, un courrier qui n'est pas arrivé, un coup de téléphone qui n'est pas passé, un abonnement qui a sauté. On est dans des petits détails, des fois. Après avoir reçu une famille pendant 6 mois ou 1 an, bien on connaît cette famille, elle peut venir nous voir. On est une association avec beaucoup d'éléments sympathiques. D'ailleurs, c'est le bouche-à-oreille qui amène le plus de gens à la médiation. C'est le bouche-à-oreille.
Oui, et justement.
On peut vouloir être cassé par des gens qui engendrent de la procédure. Ça, on ne le dira jamais assez.
Alors, justement, à propos du bouche à oreille, comme nous sommes sur Radio Galère, quelles seraient les recommandations que vous feriez à nos auditeurs qui ont des problèmes entre eux et avec les enfants? Quelles seraient vos premières recommandations ici sur Marseille?
Sur Marseille. Il est évident que si je viens sur Marseille pour dire par la radio attention, n'allez pas là ou n'allez pas là, je risque fort de me retrouver avec des boulets de canon. Parce que je ne sais pas trop ce qui se passe sur Marseille, sur la cité de Marseille, en matière de médiation. J'ai quelques idées, mais je n'ai pas les détails.
Vous les gardez pour vous.
Bon, alors je vous signale à tous.
Des fichiers nationaux. Oui. Il y a quand même des recommandations maintenant qui sont données dans les mairies et les préfectures. Il y a aussi des listes de médiateurs à disposition des publics qui sont données par le greffe des affaires familiales. Et il y a des annuaires spécifiques. Vous pouvez par exemple indiquer un annuaire qui est quand même sérieux, qui est l'annuaire des centres, l'annuaire français des centres de médiation. Je peux vous donner son adresse internet si vous voulez.
Oui, oui, volontiers.
Oui, attendez.
Alors, je vous signale à tous que, vu la qualité de l'émission que nous sommes en train de faire, nous allons la préparer pour la proposer au fond des programmes des radios associatives de toute la France. Et il est probable que l'émission soit rediffusée dans d'autres radios associatives ailleurs qu'à Marseille. Hein. Je vous le dis parce que je pense véritablement que le contenu de nos échanges le mérite. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont téléphoné depuis quelques semaines se sont bien aperçus que c'était la seule émission dans les médias qui traitait de cette question. Hein. Donc je crois qu'il y a vraiment matière à essayer de pousser un peu la diffusion.
Oui.
Mais la semaine prochaine, c'est Sandrine Porcher qui est magistrate, qui est psychologue et qui est magistrate et qui défend les enfants.
Oui.
Qui interviendra.
Alors, il y a une fédération qui s'appelle la FNCM qui est favorable à l'indépendance des médiateurs. C'est une structure qui permet justement un filtrage des qualités des médiateurs. Il y avait un article dans le journal La Croix le 9 mars 2008. C'était un article très intéressant. Vous avez l'annuaire, la diffusion de l'annuaire général qui s'appelle... il est trouvable sur notre site. C'est l'annuaire de la FNCM. La FNCM, c'est la Fédération Nationale des Centres de Médiation. Qui est édité par 12 Place Dauphine, 75001 Paris. Il y a l'annuaire de la Fédération Nationale des Centres de Médiation, qui est chapeauté par l'ANM. Il y a la structure APMF, qui est l'Association de la Promotion de la Médiation Familiale. Il y a la FENAMEF, la Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale. Mais je vous dis bien, il y a aussi les listes distribuées par les greffes, les listes habilitées dans les préfectures et les mairies. Voilà. Si les personnes font un recoupement sur le médiateur qu'ils essayent de trouver, en général, quand un médiateur se retrouve sur plusieurs annuaires, c'est qu'il commence à être sérieux. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse de votre site internet?
Oui. Il est facile à trouver. Vous mettez PEM Médiation ou PEM Médiation Familiale. Petit P, petit E, petit M, Médiation. Et il y a tous les liens qui se posent à partir de là.
Parfait.
Vous le trouvez facilement sur Google en frappant PEM Médiation. PEM Médiation Familiale.
Voilà, donc c'est médiation-familiale.com.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Voilà, parce que notre association élargit son activité depuis 2007. Elle est répertoriée en tant que médiation familiale, sociétale et culturelle.
D'accord.
Cela dit, parce qu'au niveau de la médiation familiale, nous ne prenons pratiquement rien économiquement aux familles, si ce n'est une petite cotisation à l'année, qui est un forfait, qui n'est pas obligatoire, qui se mesure en fonction des possibilités des personnes, et qui est un maximum de 370 euros à l'année. Donc c'est vraiment... en dessous de tous les coûts de procédure. La cotisation à la vie associative à l'année nous permet de faire fonctionner notre structure. La médiation sociétale, c'est autre chose. C'est un travail qui peut se faire aussi avec les entreprises, les médiations en lien avec la médiation d'entreprise et les problématiques qui se retrouvent entre les entreprises et les gestions administratives. Là, nous demandons aux entreprises de bien vouloir participer à l'association aussi. On n'en a pas encore beaucoup, mais on a quelques dossiers en cours actuellement, notamment un restaurateur qui avait eu des ennuis, une société de distribution qui s'était trouvée piégée et qui avait besoin de nos appuis de négociation. Et la médiation culturelle, là c'est un service totalement gracieux, mais qui nous apporte un élan de fraîcheur qui est étonnant, c'est tout ce qui est la création artistique et la composition en matière de créativité artisanale. C'est-à-dire que c'est un domaine qui a sensibilisé certaines personnes chez nous et qui nous permet un développement de la médiation familiale dans beaucoup d'autres secteurs. En ce moment, par exemple, d'épauler un pianiste chef de chant qui fait un opéra et qui va le produire sur l'Opéra de Paris, donc c'est pas rien. Je ne ferai pas sa publicité directement, ça se verra rapidement. Alors... Et puis, nous avons un travail de concertation avec un groupe qui est rattaché à notre association, qui s'appelle le Comité parental de réflexion sur la médiation familiale et la justice familiale. Et là, c'est une consultation totalement gratuite, puisque le CPR, le Comité parental de réflexion, ne recrute que des gens de très très haut niveau, des sociologues, des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont des bagages, qui sont enseignants, par exemple... niveau, on a une enseignante qui est CAPES agrégée, bon, ce sont des gens qui ont de la matière et qui nous permettent d'articuler. Les familles n'ont vraiment pas grand chose à donner à notre association pour être épaulées, si ce n'est la cotisation maximum, et on a toujours fonctionné comme ça. Il y a une quinzaine d'années, la cotisation était à 500 francs, puisqu'on était en francs. Bon, on a un petit peu évolué, évidemment. On s'en sortirait pas à moins de 200, 150, 200 euros par an, par famille. Donc, on a fixé le maximum à 370 euros, on peut le dire. Et il y en a beaucoup qui nous demandent comment on fait pour fonctionner. Eh bien, notre association, ça fait 20 ans qu'elle existe. Voilà.
Ah, vous fonctionnez un petit peu comme Radio Galère. Voilà, on doit vraiment rendre l'antenne, car il est 8 heures. Je dois remercier Agathe.
Moi, je remercie Alain.
Voilà.
Moi, je vous remercie.
Eh bien, remercions-nous tous, ainsi que Benoît.
Merci.
Merci, Benoît.
Bonsoir,
et mon site, c'est Parents disqualifiés, enfants placés. Il y a aussi le site de Séverine, les abus des services sociaux.
Et vous pouvez m'adresser les adresses e-mail de façon que nous fassions des liens partenaires.
Voilà.
Merci.
D'accord. Merci.
Merci à tous.
Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci beaucoup.